On va déguster. Sur France Inter.
On quitte le champ de chanvre, Elvira, pour...
Et on part en Éthiopie.
Ah, carrément.
On quitte le chanvre pour le teff, T-E-2-F. C'est la céréale reine des hauts plateaux éthiopiens. C'est une graminée que l'on compare parfois au millet, qui est essentielle à la cuisine éthiopienne. Transformée en farine, elle sert à fabriquer l'injera, une galette fermentée de couleur sable, sur laquelle les cuisinières éthiopiennes disposent des purées de légumes, des viandes lentement mijotées, et que l'on mange depuis des siècles en Éthiopie et en Érythrée. Alors le teff est une graine minuscule, on dit que ce serait la plus petite du monde, aux propriétés également assez exceptionnelles. On parle d'ailleurs de super céréales, bourrées de fibres, contenant tous les acides aminés essentiels, riches en protéines, dépourvues de gluten. Elle nourrit les hommes donc, et sert aussi au fourrage. Elle est d'ailleurs testée à cette fin en France, notamment en Charente en ce moment. Le teff est résistant et adaptable. Il s'acclimate à l'aridité aussi bien qu'au sol gorgé d'eau. Donc c'est vraiment une céréale très versatile. Il a évidemment été la cible des prédateurs de l'agroalimentaire. Une cargaison de teff expédiée en 2003 aux Pays-Bas a fait la fortune d'une petite société privée néerlandaise qui a prospéré sur un brevet européen s'appropriant l'utilisation de la super céréale. En 2018, le gouvernement éthiopien a fini par intenter une action en justice pour faire annuler ce brevet qui bloquait l'exportation de la graine de teff vers plusieurs pays. Et en 2019, la bataille a finalement été remportée par l'Éthiopie. Alors on commence à le trouver chez nous, le teff. Je pense que Linda, vous le connaissez bien. À la fois sous sa forme de graines et encore plus fréquemment sous forme de farine. Elle a un goût assez singulier, cette farine prononcée. Je dirais qu'on est proche de la noisette, mais une noisette un peu cacaotée, avec une pointe d'amertume qui convient très bien, je trouve, aux recettes sucrées. Ça m'arrange. Je vous ai d'ailleurs préparé ce matin des pancakes, largement inspirés d'une recette de Jennifer Hart Smith que nous avons reçue ici récemment, qui décidément sait vraiment tout faire. Ce sont donc des pancakes à la farine de teff et au lait ribo, sans gluten, que j'ai copieusement, enfin là pas si copieusement que ça d'ailleurs, garni de compote de pommes, de noix de pécan et de sirop de fleurs de coco. Donc je sais pas si vous sentez à la fois ce côté un peu cacaoté et un petit peu amer quand même.
C'est tellement bon.
C'est bon.
C'est vrai ?
Ah ouais.
Super.
Moelleux.
Donc c'est très simple. On sépare les jaunes d'œufs, on réserve les blancs. On mélange les matières sèches, farine, sucre complet, poudre à lever, sel. On incorpore un petit peu d'huile végétale neutre. Les jaunes d'œufs, le lait ribot, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on monte les blancs en neige au fouet, enfin au batteur. Et une fois qu'ils sont montés en neige, on les incorpore à la préparation précédente. Et on les cuit en essayant de pas faire, de les cuire un petit peu, de disposer la pâte de façon un petit peu verticale pour que ça monte un peu. Et on les sert avec ce qu'on veut. Ben, là, en l'occurrence,
et on obtient un pancake pécan avec ses petits trous. Alors, il est assez sombre, enfin, il est assez beige marron.
Oui, c'est une farine. Oui, c'est une farine assez sombre en effet.
Et l'amertume, elle vient un tout petit peu en fin de bouche. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Linda ?
Je vous prépare de la mousse au chocolat aux graines de chanvre avec de l'huile de CBD dedans pour bien nous détendre.
Les pancakes, non ?
On peut.
Voilà quelqu'un qui s'aime parler.
Alors j'ai beaucoup pensé au teff, François Régis, en égrenant les chapitres de ce livre
qui
est entre les mains que je vous passe, qui s'appelle « Une agriculture du vivant », sous-titré « Réconcilier la terre et les hommes », paru chez un petit éditeur indépendant, et on sait à quel point c'est plus que jamais le moment de soutenir les petites maisons indépendantes, qui s'appelle les éditions Libres et Solidaires dans la collection Autonomia. Le destin de cette petite graine vaillante qui a dû lutter pour échapper à l'avidité des prédateurs est en phase avec cet ouvrage collectif qui rassemble une vingtaine de collaborations de scientifiques, de chercheurs, de paysans, tous pionniers de l'agroécologie, des sols vivants, tous engagés pour une agriculture résiliente, dont le but est de nous permettre de vivre tous en harmonie, dans le respect des sols, du vivant et de l'autonomie des paysans. Certains textes sont assez techniques, je suis encore en train de les lire. D'autres sont vraiment carrément exaltants. Je pense notamment à l'hommage vibrant rendu par l'agronome Baptiste Maître aux vers de terre, dont il dit qu'ils sont souvent présentés comme les ingénieurs du sol, mais qu'il aime à décrire comme les chefs d'orchestre. Pour finir, je voudrais lire quelques lignes de la préface du livre. J'ai encore le temps ?
Oui.
On peut décrire l'agriculture idéale comme la production d'une biomasse énorme, divisée en trois parts qui remplissent trois missions. Une part qui alimente les hommes et leurs bêtes, une part pour nourrir le sol, la troisième dédiée à produire de l'énergie ou des biomatériaux. Cette agriculture, nous devons la faire avec le vivant et non plus contre lui. C'est une agriculture de la compréhension, de la sensation, de l'émotion, du partage spontané et de la coopération bordélique et créative. Une autre façon de voir le monde en baignant dedans et non plus en la regardant du haut du plongeoir. Il vous rappelle quelque chose ou quelqu'un, ce propos ?
Ah, moi j'ai une petite idée parce que je viens de comprendre. Préface,
Arnaud Daguin.
Bah, il est désolé. C'est Arnaud Daguin qui a commis ça et qui a préfacé cet ouvrage.
C'est un super ouvrage, je vous le dis tout net. Si vous voulez savoir où on en est sur les pistes de l'agriculture du vivant, celle dont on a besoin et vers laquelle on va, eh bien, lisez ce livre. Il est absolument formidable. Et je dis pas ça parce que j'en ai fait la préface.
Autonomia libre et solidaire avec, effectivement, dans les nombreux contributeurs, des noms que l'on connaît. Bah, tiens, Alain Canet.
Ah bah.
Qui préside l'agroforesterie en France.
Marc-André Sellos, qui a fait la postface. C'est Louise Barrault qui a fait ce travail énorme de réunir tous ces gens et il a eu raison.
On vous recommande cette lecture. Une agriculture du vivant, réconcilier la terre et les hommes.